Bienvenue à bord. Je vais d'abord vous présenter les auteurs auxquels on va rendre hommage, mais c'était déjà dit dans la présentation de la technique. De bons auteurs, de vraiment bons auteurs. Bon, évidemment, s'il avait fallu qu'on parle de grands auteurs, on aurait parlé de Marguerite Durasoir, de Le Clésio, et peut-être même d'Annie Ernaux, mais on n'a pas les moyens à Radio Courtoisie. C'est une radio pas très riche, quoi. Non, les auteurs dont on va parler, je le rappelle, là, c'est Marcel Aimé, Pierre Gripari et Alexandre Violatte. Alors, évidemment, on va pas faire tourner les tables, hein, mais j'ai invité des gens qui sont des représentants, soit numéro 1, soit numéro 2, mais enfin qui sont dans la direction des associations, car c'est les associations aussi qui continuent à les faire un peu vivre. Et c'est pour ça que parmi ces fins connaisseurs, ces lettrés, ces passionnés, je vous présente d'abord Jean-Pierre Belleville, qui vient de faire paraître le répertoire Marcel Aimé. Alors ça, c'est... Bonjour Jean-Pierre Belleville, bonjour. C'est formidable le travail que vous avez fait. Hein. C'est formidable le travail que vous avez fait.
Oui, ce répertoire, en fait, présente les informations que j'ai collectées au cours des 18 années que j'ai passées au sein de la Société des Amis de Marcel Aimé. Il est conçu comme une aide bibliographique qui est surtout destinée aux chercheurs.
Très bien, très bien. Mais alors surtout, il y a une chose, vous êtes né dans la même cité que Marcel Aimé.
Oui, enfin pas tout à fait, parce que Marcel Aimé est né à Joigny, dans l'Yonne, où son père était de passage avec son régiment de cavalerie. Mais il a passé son adolescence à Dole, dans le Jura, où je suis né, où j'ai passé également toute mon enfance. J'ai même fréquenté le même collège que lui, le collège de l'Arc.
Vous lui avez serré la main ?
Alors, je lui ai serré la main en 1955. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ma famille, puisque j'ai des liens de parenté avec lui, qui sont assez lointains d'ailleurs.
Non, mais c'est après ça, les gens diront que c'est par hasard qu'on fait telle ou telle chose. Alors, je vous présente maintenant le représentant de l'association des amis Pierre Gripari, Raphaël Pajares.
Bonsoir.
Bonjour Raphaël.
Bonsoir.
Alors, vous avez repris le flambeau d'Anne-Martin Conrad, qui a dirigé pendant 11 ans, et puis ça s'est un peu arrêté, parce que... Et puis, avec le jaillissement de votre jeunesse, vous avez repris le flambeau. Formidable. On va en parler aussi de Pierre Gripari, évidemment. Et puis, alors, Bernard Janin. Bonjour, Bernard Janin.
Bonjour, Alain.
Voilà. Alors, Bernard, vous êtes écrivain, cinéaste. Et alors, d'autant plus que vous avez réalisé pour la série de Bernard Rapp un Violatte. Hein.
Oui, la série Un siècle d'écrivains. Voilà, j'ai fait le Violatte.
Mais je crois que vous avez fait un autre film encore sur Violatte.
Non, sur Violatte, non.
Non, non.
Non, non. Non, non. Mais dans la même série, j'avais fait le Maurice Genevoix.
C'est magnifique, ce de 14, c'est exceptionnel. Ouais. Enfin. Mais surtout, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup à dire, c'est que vous êtes écrivain, vous avez publié un roman qui a bien marché, et qui a été même en livre de poche, et qui s'intitulait Une boucherie. Une vraie boucherie. Bah, par rapport à Genevoix et la guerre de 14, ouais. Tout à fait. Une vraie boucherie. Alors,
je vous reconnais là.
Vous représentez Jérôme Trollet, qui est le président de l'association des amis de Violatte et qui aujourd'hui est à Clermont-Ferrand.
Malencontreusement, ne peut pas vous voir, mais pour une bonne cause et pour un bel endroit qui est Clermont-Ferrand.
Oui, et puis l'hôtel Violatte.
Place de Lille.
Voilà. Bon, alors on va commencer à parler de Marcel Aimé. Alors vous savez, Jean-Pierre Belleville, il y a plus de 35 ans de ça, je crois, quand j'ai appris que Marcel Aimé allait être dans la Pléiade, je n'y croyais pas. On le doit quand même essentiellement à Michel Lécureur, que vous avez dû connaître aussi, oui.
Et que je connais encore, d'ailleurs. Michel Lécureur, qui est vraiment le spécialiste de Marcel Aimé, puisqu'il a commencé à faire sa thèse de lettres sur Marcel Aimé. Il a... Ensuite, publié plusieurs biographies, et c'est lui qui a préparé aussi l'édition dans la Pléiade.
Trois tomes, ouais. Romans et nouvelles. Mmh. Alors, il y a du boulot avec Marcel Aimé, parce que vous venez de sortir un répertoire 2026. Mmh. Alors, vous m'avez dit, il faut que les gens se le procurent. Vous avez dit, non, non, c'est pour les chercheurs uniquement. Mais si vous donnez votre site, il y a des faux chercheurs qui se diront encore un bouquin gratos, c'est tout. Alors, bon, comment on se le procure? Mais vérifiez quand même si ce sont bien des chercheurs.
Oui, mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait une ruée sur cet ouvrage. Mais effectivement, on peut me le demander à mon adresse de courriel, que je peux donner d'ailleurs ici.
Mais vous pouvez le faire.
Alors, c'est J.P. Belleville, comme Belleville.
Comme la rue de Belleville.
Voilà, comme Belleville-Ménilmontant. Alors, J.P. Belleville attaché, 194@bbox.fr.
Voilà, vous le redirez dans l'émission, ouais. Mais bon... alors, ce bouquin est formidable parce que... on peut dire... Alors, d'abord, ça commence par un gag ou une plaisanterie. Vous êtes dans l'esprit de Marcel Aimé. Il se disait lui-même comme un écrivain... Hors Goncourt, racontez un petit peu ça quand même.
Oui, Marcel Aimé a obtenu le prix Renaudot en 1929 avec son roman La table crevée. Et quand on obtenait le prix Renaudot, on avait peu de chance d'avoir le Goncourt ensuite. C'était toujours l'argument qui était avancé quand un de ses livres était sélectionné. En vue du prix Goncourt. Donc, il a dit, maintenant, je vais poser sur mes romans hors Goncourt.
Alors, il a refusé l'Académie française, mais de manière très courtoise. En revanche, quand tu lui as proposé la Légion d'honneur, je crois qu'il a été beaucoup moins courtois. Il a dû dire d'aller se la mettre quelque part. Enfin, je ne veux pas donner de détails.
Oui, alors ça venait tout de suite après qu'il ait reçu un blâme sans affichage pour avoir vendu un scénario d'un film, dans lequel jouera d'ailleurs Fernandel, vendu à la société, une société dans laquelle il y avait des capitaux allemands, c'était la Continental. Mmh. Alors il avait reçu un blâme, alors que la même année, il avait participé à trois films avec Louis Daquin, qui était un résistant communiste. Ça, on n'y a pas mis de blâme pour ça. Et donc, on lui propose, 2 ans après, la Légion d'honneur. C'est là qu'il a pris un coup de sang et qu'il a fait cette réponse un peu violente.
Que nous ne citerons pas in extenso. Alors, avant de parler de l'intérieur de ce livre, je voulais savoir quel est le premier livre de lui que vous avez lu et le premier livre... que vous conseillez à ceux qui doivent débuter dans la lecture et la connaissance, parce que quand on commence Marcel Aimé, c'est comme pour Belleville, c'est vous. Non, pour Vialat et pour Gripari, bah quand on commence à mettre le doigt, le doigt est happé dans l'engrenage, quoi. Voilà. Quel est le premier que vous ayez lu et qu'est-ce que vous conseillez de lire en premier?
Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est bien sûr La Vouivre. Écrite et publiée en 1943, qui est inspirée d'une légende franc-comtoise et dans laquelle Marcel Aimé aborde des problèmes comme la féminité, comme la finitude de l'homme. C'est-à-dire, c'est à la fois souvent humoristique à sa manière, mais c'est surtout un roman très profond. Je pense que c'est le roman le plus abouti de Marcel Aimé.
Et dès le début, là-dedans, on est déjà dans le fantastique. Mais ce n'est pas du tout un fantastique à la Dracula ou des choses comme ça. C'est se servir justement d'une situation impossible, comme La Belle Image, comme bien d'autres, pour montrer à quel point la vie a une absurdité en elle.
Oui, c'est un petit peu expérimental. Marcel Aimé écrivait des romans très réalistes, souvent situés dans des lieux réels. Et il introduisait simplement une note de fantastique. Et il laissait évoluer son personnage, qui par exemple vivait un jour sur deux, ou une femme qui avait le don d'ubiquité, etc. Il essayait de donner à son personnage une certaine autonomie, et en général, ce qui se passait, c'est que les personnages, ils essayaient de revenir à leur état initial, parce que ça, souvent, ça les dérangeait.
Bah, ils n'étaient pas du niveau, quoi. C'est voilà. Une chance. Et ça, c'est une grande idée de Marcel Aimé. Une chance vous est donnée dans votre vie, mais vous ne la saisissez pas parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, c'est... Mais alors, je crois même, d'ailleurs, il connaissait bien le monde du travail, mine de rien, parce qu'il explique, c'est dans la Vouivre, je crois, qu'il explique que sur un terrain municipal, si les gens se concertent et arrivent à ériger une maison en moins de 24 heures, la maison et le terrain sont à la personne qui l'a construit avec ses amis. Quoi.
C'est ça, effectivement. Il décrit les personnages d'un village construisent une maison au cours de la nuit sur les prés communaux, on disait sur les communaux, au cours de la nuit. Alors il suffisait qu'il y ait surtout le toit. Et à ce moment-là, la parcelle de terrain sur laquelle était construite la maison devenait la propriété de la personne en question, qui souvent était une personne très humble.
Bah, sans ça, il l'aurait construite lui-même, il aurait acheté son terrain. Et alors, c'est absolument incroyable. On a même dit de Marcel Aimé des choses pas très jolies. Alors, à la limite, moi, qu'il soit de droite, je m'en fiche complètement, mais en fait, on a l'impression que c'est plutôt une sorte de... Est-ce que c'est pas un peu un homme de gauche déçu ?
Oui, oui. D'ailleurs, au début de sa carrière, il a carrément collaboré avec des gouvernements de gauche, puisqu'en 1936, quand le gouvernement du Front populaire, en fait c'est en 1937, a organisé un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées pour célébrer la première année du Front populaire. Alors ce spectacle était constitué de tableaux historiques. Eh bien, Marcel Aimé a écrit le scénario d'un tableau historique. Ça concernait Pantagruel, je crois.
Oui, oui, oui. Donc, encore une fois, merde à l'idéologie, vive la littérature. Les grands écrivains, ils dépassent tout, ils dépassent... qu'est-ce que ça peut nous faire, que ceci, que cela, voilà, c'est avant tout la qualité qui compte, et Marcel Aimé est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que vous donneriez, vous, à... Qu'est-ce que vous conseilleriez à lire en premier pour quelqu'un qui dit « Marcel Aimé connaît pas », bon, qu'est-ce que vous lui conseillez?
Alors, je ne veux pas lui conseiller la jument verte, parce qu'elle a fait scandale à l'époque. Mais, comme je vous disais, je pense que je lui conseillerais La Vouivre. La Vouivre. Alors, si c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire récente de la France, il y a trois romans, c'est une trilogie. Il y en a un qui se passe sous le Front populaire.
Travelingue.
Un autre, pendant l'occupation, avec les problèmes de marché noir, c'est Le Chemin des Écoliers. Et le dernier, Uranus, qui est peut-être le plus connu, qui se passe à la Libération avec l'épuration.
Est-ce que Travelingue, c'est pas déjà un peu la description d'avance du bobo qu'il fait ?
Oui.
Parce que je me souviens d'un personnage de grande bourgeoise qui va voir un film soviétique. Mmh. Et d'ailleurs, il y a des films soviétiques, je me tourne vers Bernard Jeannin, qui sont des chefs-d'œuvre absolus.
Oui.
C'est peut-être d'ailleurs Eisenstein, est peut-être le plus grand cinéaste, si on devait dire ça. Et qui dit « Ah, cet ouvrier agricole qui est amoureux de son pommier » ou quelque chose comme ça. On sent le bobo, là. Il les a sentis venir, quoi. Voilà, c'est... On va revenir sur ces deux romans. sur ces trois romans, parce que Travelling n'a pas été adapté au cinéma, je crois.
Deux adaptations, oui. Travelling, je ne crois pas.
Mais... c'est pas des téléfilms, oui. Alors, Chemin des Écoliers, c'est
Chemin
Boiron.
Chemin des Écoliers, oui. Et puis,
bon,
Uranus,
je ne trouve pas que ce soit un bon film.
Uranus, Claude Berry.
Je ne trouve pas que ce soit un bon film, parce que dedans, il y a un personnage de type qui tue des gens, les découpe et vend la viande, comme si c'était du bœuf ou du cochon.
Et pour revenir sur La Jument Verte, vous disiez, Jean-Pierre, que ça avait fait scandale, le roman, mais le film aussi.
Oui, et d'ailleurs, effectivement, je me souviens, j'étais adolescent, j'étais adol, et les bien-pensants voulaient faire interdire le film à Dole. Mais il n'a pas été interdit parce que le sénateur maire de Dole était un ancien camarade de classe de Marcel Aimé. Donc il a dit, le film a obtenu le visa, il n'y a aucune raison pour que je l'interdise.
Alors, dans La Jument Verte, d'abord on voit Sandra Milo, l'actrice, qui fait pipi ou qui fait semblant de faire pipi, c'est derrière un buisson et on la surprend. Mais il y a surtout un dialogue qui est très drôle, mais qui n'est pas dans le Marcel Aimé, ça j'ai vérifié. C'est bon, c'est un officier prussien, ça se passe en 70, qui viole une dame. Et quand il se relève, il y a un ray de lumière. Il dit « Ah, mais faut cette fille !» elle fait signe, c'est triste et tout. Il dit « Ça ne fait rien, c'est la guerre !» C'est pas de Marcel Aimé, mais c'est une très belle réplique. Je sais plus, c'était peut-être de Janson, d'ailleurs, le scénario, non ?
Oui.
Alors... en revanche, Uranus, je trouve que, honnêtement, c'est un grand roman, c'est un bon film, mais je trouve que Claude Berry, qui a été communiste dans sa jeunesse, est plus anticommuniste encore dans son film que Marcel Aimé dans le roman. Est-ce que c'est pas une façon de régler ses comptes avec sa jeunesse ?
Oui, parce qu'effectivement, Marcel Aimé n'était pas plus anticommuniste qu'il pouvait être anti-calotte ou anti-autre chose. Hein. Il a très bien travaillé, comme je disais, avec des metteurs, des réalisateurs communistes. Et il s'est très bien entretenu.
Oui, notamment avec lui, Louis Daquin. Oui.
Dans le film, dans le bouquin Uranus, on va retrouver les deux personnages. Il y en a un qui est joué par Lucchini, d'ailleurs, qui est l'idéologue communiste ignoble, etc. Puis il y a le militant de base. Il peut pas faire autrement, mais ça l'embête de dénoncer le collabo qui s'est réfugié dans une cave parce que c'est pas son genre de dénoncer les gens. Vous voyez, c'est vraiment très très bien. Alors, on va parler un petit peu de ce cahier formidable. Marcel Aimé, répertoire 2026. Alors, Marcel Aimé, entre parenthèses, 1902-1967. On sait de quoi il est mort ?
Oui, il est mort de complications pulmonaires d'un cancer du pancréas.
Oh là là, ça faisait mal à cette époque-là. Et d'un autre côté, il n'a pas vu mai 68, ce qui est...
Oui, c'est vrai.
Il aurait pu en écrire. Répertoire 2026, mais attendez. Alors, j'ai repris vos textes et tout, 18 romans, 21 pièces de théâtre, certaines n'ont pas été jouées, avis à la population, 5 traductions de pièces, donc des pièces d'autres pays, 21 participations à des scénarios réalisés ou non, 24 paroles de chansons, dont beaucoup avec Guy Béard, d'ailleurs La Chabraque est une petite merveille, voilà. Il a été traduit en 37 langues. Et alors, il y a de nombreuses adaptations de ses œuvres sur l'écran petit ou sur l'écran grand. Est-ce que vous ne pensez pas que souvent les téléfilms ont été de meilleures réussites d'adaptation que les films d'écran grand ?
Oui. Effectivement, parce qu'en fait, le style de Marcel Aimé était plutôt adapté à la nouvelle. C'est-à-dire à des récits courts. Donc, ça s'adapte plus facilement, je pense, en téléfilm qu'en film qui dure plusieurs heures.
Hein. Oui, justement, il y a un auditeur, Roland, là, qui suit bien mes émissions, et je l'en remercie, et qui me dit mais les meilleures sont peut-être celles de Tchernia. Et je trouve que celles de Tchernia sont... Il n'en a pas fait beaucoup, il a dû en faire 4.
C'est lui qui a fait le plus de travail. sur les œuvres de Marcel Aimé. Il a adapté cinq.
Cinq, oui, voilà.
Il a adapté la pièce Lucienne et le boucher.
Mm-hmm.
Et puis quatre nouvelles, L'huissier, La Grâce, etc., interprétées par Michel Serrault.
C'est pas La Grâce, c'est pas cette nouvelle où quelqu'un se retrouve avec une auréole.
Oui.
Voilà, c'est Serrault qui a l'auréole. C'est terrible quand vous êtes poursuivi comme ça par La Grâce. Quoi.
C'était le meilleur chrétien du quartier qui avait été gratifié d'une auréole. Qu'il gênait beaucoup parce que ça empêchait sa femme de dormir la nuit. Et puis elle trouvait que. Elle lui disait qu'est-ce que vont dire les voisins et les commerçants. Donc il laissait tous les péchés pour perdre son auréole. Et il finit même par la luxure. Mais Dieu ne reprend jamais ce qu'il a accordé. Donc à la fin, il était proxénète. Et il comptait la recette à la lumière de son auréole tous les soirs.
Il devait en mettre un petit peu dans le denier du culte, dans le tronc des pauvres. Alors, est-ce que bon, ces pièces ont eu beaucoup de succès. Il y a une pièce que j'ai lue, je l'ai pas vue. C'est Louisiane. Et puis, si on met ça avec sa nouvelle qui s'appelle La fille du shérif, il est d'un anti-américanisme très dur. Hein. Il est allé aux États-Unis.
Alors oui, en 49 ou 50, il était invité par la revue Collier's, qui est une revue américaine.
Oui, Collier's.
Et sous la conduite d'un éditeur québécois. Et il a passé trois semaines aux États-Unis où il a beaucoup visité. Donc, il a été choqué, bien sûr, dans le Sud par la ségrégation raciale. C'est justement le thème de Louisiane. Et il a également été un peu perturbé par cette course à la rentabilité, la compétitivité, etc.
Et à la guerre, parce que qu'on fait par procuration souvent.
Et ça a été le terme d'une autre pièce dont j'arrive.
Vous le savez?
Oui, c'est La Mouche Bleue.
Vous êtes formidable.
J'adore Marcel Aimé.
Raphaël Pajares, bah oui. On va le dire d'ailleurs tout à l'heure que Marcel Aimé était un des grands influenceurs de l'œuvre de Pierre Gripari. Malheureusement, Pierre Gripari, quand Marcel Aimé est mort, je crois qu'il avait... il avait dû publier deux ou trois livres déjà, mais je ne crois pas qu'ils se soient rencontrés.
Non, jamais, malheureusement.
Hélas. On revient à Marcel Aimé. Mais alors, il y a des pièces... Quelle est la pièce de lui qui a le mieux marché?
Je pense que c'est La Tête des Autres.
À cause de la question de la peine de mort.
Oui, oui. Ça, là encore, c'est comme La Jument Verte. Ça a fait un énorme scandale, puisque le syndicat des magistrats avait demandé aux gardes des Sceaux d'interdire la peine.
Eh ben voyons.
Mais de poursuivre Marcel Aimé.
Ah ça, c'est encore plus grave.
Mais il faut savoir qu'à l'époque... Le président du Conseil des ministres, d'ailleurs le chef du gouvernement, c'était Edgar Faure, élu du Jura.
Oui, et puis on oublie toujours qu'Edgar Faure a quand même écrit trois polars.
Oui,
c'était un opportuniste, tout ce qu'on veut, mais c'était des hommes politiques qui étaient cultivés, qui savaient écrire en français.
Et sous le pseudonyme d'Edgar Sandé.
Alors, je crois qu'il y en a un qui l'a publié sous son nom et les deux autres, Edgar Sandé, D-A-Y. Hein, voilà.
Parce qu'il n'y a pas de D.
Voilà. Alors, est-ce que c'est passé aussi à... Est-ce que ça a été montré, par exemple, au théâtre ce soir, cette émission de télévision qui a eu un succès colossal dans les années 60-70, hein, avec Pierre Sabag qui en était le maître d'œuvre.
Je crois, oui. Alors l'autre pièce, bien sûr, c'est Claire Rambard.
Claire Rambard.
Qui a très bien marché aussi.
Je me souviens l'avoir revue au théâtre des Champs-Élysées. Et mon Dieu, que ce décor années 30 allait bien avec la pièce de Marcel Aimé. Mais est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on sent une désaffection malgré tout pour monter des pièces de théâtre en ce moment où ça continue de se faire?
Alors, il y a un problème, c'est dans les pièces de Marcel Aimé, c'est comme celle de Jean Anouilh et des dramaturges de l'époque, il y a beaucoup de personnages. Alors, pour monter des pièces maintenant, on monte plutôt des pièces à 1, 2, 3 personnages. C'est une question de coût, tout simplement.
Chez Guitry aussi, il y a pas mal de personnages, souvent. Hein. C'est... Mais, bon. Mais Guitry va bientôt être dans le domaine public. Quand est-ce que Marcel Aimé... Il est dans le domaine public maintenant, Marcel Aimé? Non, pas encore.
Non. À l'étranger, bien sûr. Mais puisque c'est 70 ans.
Hein. C'est 70 ans en France aussi.
Après
maintenant.
Le décès, il est mort en 67.
Ouais, ça fait de... Oh, ça va pas tarder. Ouais. Alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre les ascendants et descendants de M. Marcel Aimé, mais je dois dire que est-ce que ça permettra peut-être... Mais il est quand même bien installé avec la Pléiade. Hein. Ouais. Alors, petite question encore. Bon, il y a beaucoup de... D'ailleurs, dans le bulletin, dans votre ouvrage, Marcel Aimé, Répertoire 2026... On voit des images de maisons où habitait Marcel Aimé. Bon, il a habité d'abord dans une rue dans le 18e qui est sinistre.
Alors, il a...
Et puis après, il était sur ce carrefour magique, là. Enfin, c'est...
Alors, la première... premier domicile, c'était rue du square Carpeau.
Oui.
C'est un petit peu au bas de la butte, hein. Après, il a été rue Paul Féval, effectivement, c'était assez sinistre, mais il avait une belle vue sur les vignes de Montmartre. Et puis un jour, il y a eu des buildings qui ont été construits de l'autre côté de la rue qui lui ont bouché la vue sur Montmartre, sur les vignes. Alors c'est là qu'il est venu rue Norvin, dont une partie a été transformée en rue Marcel Aimé.
Place Marcel Aimé. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en face a vécu Céline, que des résistants comme Roger Vaillant faisaient la foire, et peut-être même un peu plus, d'ailleurs, quand on connaît Roger Vaillant. Il était en dessous chez Céline. Et puis, pas loin, il y avait le studio, enfin l'atelier de Jeanne Paul. Il y avait aussi la maison que Loos avait écrite pour Tristan Tzara, mais la maison ressemble à Bloco, c'est quant à Tristan Tzara, on dira pas ce qu'on en pense ici. Et Poulbeau aussi habitait, c'est un endroit magique. Alors, qui a eu... Maintenant, on voit Marcel Aimé qui sort de la muraille, qui... Mais c'est donc le passe-muraille, un hommage au passe-muraille. Mais qui a eu l'idée de cette statue? La statue étant de...
Jean Marais.
Et oui, sculpteur, on l'oublie.
Oui, oui.
Qui était voisin.
Oui. Alors, ce qu'il faut... Bon, cette statue, c'est le personnage du passe-muraille, mais le visage, c'est Marcel Aimé.
Oui, oui, bien sûr.
Et ce qui est intéressant, c'est que le mur dont il sort, c'est le mur de soutènement d'un jardin, qui est le jardin Frédéric Dard.
Ah oui. Mais qui a eu l'idée de mettre ça à la mairie de Paris quand elle avait encore un petit peu de goût, qu'elle s'intéressait un peu
La mairie du 18e, oui.
Ah non, mais ça a été fait avant de la Noé, ça on peut en être sûr. Hein,
peut-être
ça,
c'est... La commune libre de Montmartre.
Ah ben oui.
Avec la vente du château au Montmartre.
Oui, oui.
La vente du cru.
Bon, excellent. Vous parlez du vin. Hein.
Oui.
Bon, il paraît que ça s'améliore. Mais bon,
bref.
Alors, encore des endroits où on voit Marcel Aimé, encore des lieux dans Paris où on peut dire, par exemple, tiens, bah là, il y a vraiment le début d'un roman, la belle image, le début d'une nouvelle.
Alors, c'est surtout Adole. Adole.
Adole, oui.
Où se déroulent tous les romans dits de la province.
Oui, alors, c'est vraiment bien, d'ailleurs, parce que place Marcel Aimé, il y a aussi une plaque qui n'existe plus, qui se faisait à l'époque, au fond, où Tibéri était le maire, parce que Chirac fiche à rien, on le sait. Hein, bon. Mais Tibéri, Et il y avait des plaques, voilà, le passe-muraille, inauguré le 25 février 1989. Pas de problème, le pire avait été évité. Et il y a aussi, je crois, un hôtel Marcel Aimé.
Oui, oui, à Montmartre, un hôtel littéraire Marcel Aimé.
Oui, dans la chaîne de...
La chaîne des hôtels littéraires.
De Monsieur Le Tertre, où il y a à Trouville... À Flaubert, oui. Clermont, à Vialatte.
À Paris, il y en a d'autres. Il y a le Swan.
Le Swan, près de la gare Saint-Lazare. Où il y a des.
Il n'y a pas un Rimbaud vers la, vers la Porte Saint-Denis.
Un Rimbaud aussi, oui. Oui. Ouais. Oui, oui.
Mais alors, un jour, c'est Le Tertre qui organise tout ça. Et un jour, je lui dis, c'est aussi, ça fait partie de mes écrivains préférés. Je dis, pourquoi n'y aurait-il pas un hôtel Léoto? Alors, il m'a regardé d'un air, mais vous êtes complètement abruti. Quand on voit la manière absolument cradingue où habitait, la manière dont il habitait sa cabane, enfin sa cabane, sa petite maison à Fontenay-aux-Roses, on se dit que les gens qui connaissent Léoto n'iraient jamais dans l'hôtel Léoto. Bon, bah écoutez... deux mots quand même sur des films. Je trouve que La Traversée de Paris, par exemple, serait une bonne adaptation. Malheureusement, Gabin, qui ne voulait pas être un salaud et qui ne voulait pas mourir dans le film, a fait changer la fin. Et c'est vraiment dommage. Donc, regardez La Traversée de Paris, où Gabin et Bourvil sont excellents, d'ailleurs. Hein, c'est pas ça la question, mais... La fin est changée et change tout. Et puis, alors, La Vouivre, je vais vous dire, moi, j'ai vu le film La Vouivre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai été très déçu, parce que... D'abord, ça devrait se passer dans le Jura, puisque c'est peut-être le plus jurassien des romans.
Et ça se passe où, alors ?
Ça se passe...
Bon, vous savez, bon, c'est pas très grave. Hein.
C'est dans le Sud, puisque, en plus, c'est Fernandel qui n'est pas, à mon avis, le personnage...
Qui ça, vous dites ?
C'est Fernandel qui...
Ah non, La Vouivre, non, c'est un film beaucoup plus récent.
Ah non, excusez-moi. En 1989, ça a été fait par le père de Lambert Wilson.
Oui, c'est Lambert Wilson.
George Wilson.
C'est George Wilson, merci, ouais, tout à fait.
Mais bon, effectivement, je trouve que c'est dommage.
Moi, je vais vous dire, bon, on nous montre une Vouivre, une fille superbe qui a joué dans ce film. D'ailleurs, elle n'a pas un mot à dire, ça doit être un mannequin. On la voit nue, elle est magnifique et tout, mais moi, j'ai l'impression que la Vouivre, il ne faudrait pas la voir. On aurait pu remplacer ça par un halo lumineux ou par une voix, peut-être, ou une caméra subjective. Mais c'est une erreur d'avoir montré même la très, très belle fille nue. Mais c'est pas dans l'esprit de c'est pas l'esprit de Marcel Aimé, quoi.
D'ailleurs, il y a eu un film qui était tourné pour Arte et qui s'intitule Le Jura fantastique de Marcel Aimé.
Ah.
Et la réalisatrice s'est fait filmer dans une robe blanche en flou.
Voilà, elle a compris.
Passant dans
peut-être
dans
qu'elle ne voulait pas se montrer nue, considérant qu'elle... Bon, bref. Alors, redites-nous, cher Jean-Pierre Belleville, comment se procurer pour... Mais vraiment, c'est pour les collectionneurs, hein, s'il vous plaît. Et si en plus, vous pouvez en parler dans des revues, dans des choses comme ça, faites-le, parce que c'est vraiment important. Redites l'énoncé de votre courriel.
Ben, mon courriel, c'est JP Belleville 194 @bbox.fr.
Bon, on essaiera de leur dire d'ici la fin, mais vraiment, c'est... Moi, j'ai appris encore plein de choses. On n'en finit pas d'aimer les écrivains qu'on aime. N'est-ce pas, Raphaël Pajares ?
Absolument.
Et pour Radio Courtoisie, là, le jour où on rend hommage à trois grands écrivains français, il n'y a pas que ces trois-là qui sont grands, hein, y en a d'autres, mais bon... En tout cas, c'est ceux-là que je connais le mieux, et puis c'est surtout ceux-là dont je connais les responsables, en quelque sorte. Alors, Gris Paris, tout ça, c'est bien joli, mais vous, alors, même question, même réponse, Mais le premier livre que vous avez lu est le premier que vous conseilleriez à lire?
Alors, ils sont très différents. Le premier que j'ai lu, comme tous les enfants des années 90, parce que j'étais enfant dans les années 90, on avait le...
Sans blague.
On avait le conte à lire qui était au programme de l'éducation nationale. Donc, je devais être en classe de 6e et Gripari était déjà décédé, malheureusement. Et nous avions les contes de la rue Broca. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu de Pierre Gripari. Les contes de la rue Broca, qui est le livre le plus connu de Pierre Gripari, qui n'est pas le plus représentatif, mais en tout cas qui est le plus connu jusqu'à aujourd'hui, avec peut-être les contes de la folie Méricourt également. Mais le premier livre que je conseillerais aux gens qui n'ont pas lu Gripari ou qui hésitent à le lire, ça serait évidemment Pierrot la Lune, qui est son premier roman, qui est en réalité un récit autobiographique. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Alain, mais pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Je sais que vous préférez, on en a déjà discuté beaucoup de fois, vous préférez Frère Gauchou, le voyage en Chine. Pour ma part, c'est Pierrot la Lune, puisque toutes les clés de son œuvre sont vraiment dans ce livre-là, qui est un... Alors, c'est pas... Il est présenté comme un roman, il est toujours édité aux éditions de la Table Ronde. D'ailleurs, on peut le trouver en poche dans la Petite Vermillon, la collection de poches de la Table Ronde. Avec une préface de Michel Déon.
Qui était
académicien et qui est surtout celui qui a découvert Pierre Gripari en allant voir une de ses pièces au théâtre de la Gaîté Montparnasse en 1962, qui était lieutenant tenant, qui a eu un gros succès, ce qui est très rare pour Pierre Gripari, de parler de gros succès, qui est une pièce qui a été à l'affiche plusieurs mois, de novembre 62 à mai 63 de mémoire. Et c'est Michel Déon qui a été interpellé, surtout parce qu'il avait lu dans le programme du théâtre, puisque Pierre Gripari se définissait comme un écrivain méconnu ou inconnu, je ne sais plus le mot exact, ce qui a interpellé davantage la curiosité de Michel Déon, qui a décidé de le rencontrer. Et c'est lui qui l'a introduit aux éditions de la Table Ronde, où il a pu publier par la suite beaucoup de livres, dont Les Contes de la rue Broca en 68, mais surtout Pierrot la Lune, qui est son premier livre, qui est présenté comme un roman, mais qui en réalité qui est un récit autobiographique,
oui.
Voilà, où il parle, ça commence au berceau, et ça se termine de mémoire je ne sais plus exactement, mais je crois quand il part pour Paris, me semble-t-il. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui sera éditée bien des années plus tard, en 84 de mémoire, qui est la deuxième partie de son récit autobiographique, qui s'appelle Histoire de prose, qui est davantage un roman érotique homosexuel, je pense qu'on peut le qualifié comme ça, sans forcément mettre une étiquette, parce que je n'aime
son
pas ça.
Son érotisme est quand même très particulier, parce
voilà.
Que j'ai même fait lire ça à des amis homosexuels, donc on trouvait que c'était bien, parce qu'ils aimaient bien Gripari en tant
oui,
qu'écrivain, mais ils m'ont dit l'érotisme de Pierre Gripari...
Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. En revanche, il est très intéressant, parce qu'il parle de deux choses dans ce livre-là qui sont très intéressantes. La première, c'est son expérience avec les militaires, puisqu'il a été, il a fait le service militaire, et il s'était engagé, je crois, me semble-t-il, dans les parachutistes.
Rien faire d'autre.
Voilà. Et ça s'est très bien passé.
Il avait perdu son père et sa mère.
Absolument. Il raconte ça dans Pierrot la Lune. Sa mère qui est morte d'alcoolisme quand il est très jeune. Et puis son père qui meurt quand il a l'âge de 17 ans. Je crois qu'il va passer le bac. Où il est, son père est mitraillé par dans un autocar par un avion états-unien ou britannique, je ne sais plus, en tout cas anglophone, puisqu'on pensait que se cachaient des Allemands dans ce car-là. En réalité, ce sont des civils qui vont être tués, 8, dont le père de Pierre Gripari. Tout ça, c'est raconté, c'est très émouvant dans Pierrot la Lune. Et donc, pour finir, pour la deuxième chose intéressante dans Histoire de prose, c'est... tout le milieu des éditeurs de la place de Paris qu'il va totalement incendier dans Histoire de prose. C'est assez, assez drôle, assez comique.
Vous avez raison, c'est la suite. C'est-à-dire, quelqu'un arrive dans le milieu littéraire entre guillemets, hein,
oui, oui.
Bon, en se disant, oh, je vais enfin rencontrer des écrivains. Tout. Il entend parler que de recettes et de mauvais écrivains, d'écrivains qui l'ennuient. Quand il dit, par exemple, moi j'aime beaucoup Kipling, on lui dit, oh, ce fasciste, ce colonialiste, ce raciste. Mais d'abord, Kipling n'a jamais été ça, et même s'il l'avait été, si c'est un génie de la littérature, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
Oui, absolument.
Bon, moi je vous assure, je n'aime pas Céline, et c'est pas parce qu'il s'est retrouvé dans les situations que l'on sait et tout. Si je l'aimais, je l'aimais, voilà, j'en ai rien à faire des idées des gens. Bon, bref. Alors, donc vous conseillez...
Pierrot la Lune.
Pierrot la Lune.
Oui. Alors, je peux en conseiller d'autres aussi. J'aime beaucoup Patrouille du Comte,
qui a été réédité récemment aux éditions des Sept Cavaliers.
Des Sept Cavaliers, absolument. Ça a été réédité l'année dernière, ou il y a deux ans. Vous nous aviez invité avec Anne-Martin Courat, qui est derrière son poste et que je salue. Je l'ai eu cet après-midi au téléphone, qui est notre ancienne secrétaire générale, qui a très bien connu aussi Pierre Gripari. Vous nous aviez invité il y a un an ou deux ans, je crois, pour parler de cette réédition.
Oh, un an et demi,
oui,
grand maximum.
À peu près. Qui est un livre très intéressant puisque il avait anticipé, on peut dire, alors le mot n'existait pas encore, mais ce qu'on appelle le wokisme un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire cette censure,
il l'a senti venir.
Voilà, mais il faut dire aussi que Gripari avait été communiste aussi dans les années 50, sans jamais prendre sa carte au parti, donc je crois qu'il y a eu par rapport à la censure une influence sans doute qui venait de ces années-là.
C'est très intéressant parce qu'après, il était très anticommuniste, oui. Mais il se rappelait de l'époque où il vivait dans un pavillon de banlieue, il soulouait une chambre à des communistes qui étaient des braves gens.
C'est bien sûr.
Mais c'est ça, la vie. Voilà, il faut arrêter avec l'idéologie, merde. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Mais alors, je veux dire, il y a un miracle aussi des contes pour enfants parce que je m'amuse souvent quand je vois, par exemple, une jolie femme avec son enfant de 8-10 ans, comme ça, je lui dis, est-ce que votre fille ou votre fils, est-ce qu'ils lisent du Pierre Gripari? Pour qui c'est? Comment, ils lisent pas les contes pour enfants, non? Comment, ils ont pas lu La sorcière du placard au balai ou La sorcière de la méfaite? Ah, si, bien sûr, c'est formidable! C'est même pas les contes pour enfants qui sont connus, c'est vraiment des titres bien précis, hein.
Oui, d'ailleurs, si vous regardez, c'est assez drôle, peut-être assez cynique, je ne sais pas, mais quand on regarde les couvertures dans les librairies des contes pour enfants, donc notamment les contes de la rue Broca, vous avez en gros contes de la rue Broca et en tout petit Pierre Gripari. Alors qu'en général, quand on a un écrivain connu, si on reprend Marcel Aimé, qui est un écrivain que j'aime beaucoup aussi, c'est Marcel Aimé quand même écrit plus gros que les contes du chat perché, par exemple. Et là, c'est l'inverse chez Gripari. C'est vraiment les contes, ou même les contes de la folie Méricourt, c'est vraiment, ou la sorcière de la rue Mouffetard, les contes qui sont écrits en gros, et le nom de Pierre Gripari, qui est accessoire, on a l'impression, qui est vraiment rattaché, mais on a l'impression qu'il est un petit peu par hasard, donc c'est aussi très révélateur.
Savoir pourquoi?
Je ne sais pas. Vraiment, je l'ignore. Peut-être que l'œuvre a dépassé un petit peu le nom de l'auteur, je ne sais pas.
Oui, en général, on sait que les Trois Mousquetaires, c'est Alexandre Dumas.
Oui, Quichotte, c'est Cervantes. Quand on parle de Don Quichotte, on oublie souvent Cervantes. Alors, je ne fais aucune comparaison avec Gripari, bien évidemment, mais peut-être que quelque part, l'œuvre a dépassé un petit peu. L'œuvre est connue quand même mondialement, elle a été traduite dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc, peut-être que l'œuvre l'a un petit peu dépassée.
Vous connaissez le premier pays où il a été traduit?
Je crois que c'est le Japon, mais je ne voudrais pas une bêtise. Oui, c'est ça,
il avait
Japon,
appris
absolument.
Quelques mots de japonais, notamment, et qu'il faisait bien rire. Et on dit, comment dit-on mariage en japonais? On dit kekon. Évidemment. Ça le faisait tordre de rire. Ce miracle des contes pour enfants, ça permet quand même, malgré tout, qu'il n'est pas tombé dans un trou, parce que au contraire de Marcel Aimé, au contraire de Vialatte, et il serait tombé dans un trou sans les contes pour enfants. Et est-ce que c'est pas ces prises de position qu'on peut trouver contestables, et je les trouve souvent contestables, toujours provocatrices, et ça me déplaît pas non plus, mais est-ce que c'est pas un frein, le frein à sa découverte, il mérite encore d'être découvert? Et si vous le permettez, avant de répondre, je voudrais vous lire une petite phrase de Simone Weil, philosophe immense, dans Les besoins de l'âme. La liberté d'expression totale, illimitée, pour toute opinion, quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. Répondez maintenant, alors, ces idées, est-ce qu'elles lui ont fait tant de tort que ça?
Écoutez, moi je n'ai pas connu Pierre Gripari, donc ça serait, je pense, peut-être malhonnête de dire que ce qu'il en aurait pensé aujourd'hui. Moi je ne l'ai pas connu, on m'a rapporté qu'il était quand même assez provocateur. J'ai lu l'intégralité de son œuvre. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit de raciste dans son œuvre, ou de discriminant, vraiment... Voilà, donc.
On va pas les citer, mais il y a quand même des phrases très provocatrices.
Oui, notamment dans Frères Gaucher ou Le Voyage en Chine.
Oui, ou même dans Reflets et Réflexes, qui est un.
Oui, bien sûr, qui est un recueil, qu'il faudrait rééditer d'ailleurs, qui était un recueil.
Il faut tout rééditer.
Oui, il faut tout rééditer. Je ne saurais pas trop m'avancer sur cette question. En tout cas, écoutez. Quand on est, nous avons, j'en profite pour rebondir un petit peu tout en restant en lien avec la question que vous m'avez posée. Nous avons enregistré en juin l'année dernière, en juin 2025, avec Anne-Martin Conrat et le comédien Damien Bricoteau, un reportage pour Arte. Donc Arte est venu nous chercher, nous a fait un reportage de 15 minutes qui s'appelle Le Paris populaire et enfantin de Pierre Gripari, qui a été diffusé le 12 janvier 2026 sur Arte et qu'on peut retrouver sur arte.fr, sur le site. J'invite vos auditeurs à le regarder. C'est vraiment sur le Paris, donc la rue Broca, la rue Mouffetard et la rue où il avait habité, qui est la rue de la Folie Méricourt. Et effectivement, la journaliste m'a dit que dès qu'on tapait le nom de Pierre Gripari, on avait rapidement des mots qui étaient associés, notamment sur sa page Wikipédia, type fasciste, raciste, etc. Bon, moi je ne...
Les gens ne savent pas, mais le fascisme n'est pas de droite en plus.
Oui, hein, tout à fait.
Il est de gauche, au départ en tout cas.
Écoutez, moi je vais vous faire une petite confidence. J'ai sur ma table de chevet les deux étendards de Lucien Rebatet que je suis en train de lire actuellement, qui est un livre très épais, très, très difficile à lire, pour le moins très intéressant. Et je peux vous assurer, je n'ai pas du tout les mêmes idées que Lucien Rebatet. Mais pourquoi je ne le lirais pas? Vous voyez, donc j'ai beaucoup aimé Céline aussi, dont j'ai lu quasiment l'œuvre intégrale. Voilà, moi je n'ai pas de, ça m'empêche pas de lire. Je veux dire, sinon on lirait plus personne, vous voyez.
Ah ça, c'est,
voilà. On lirait strictement plus personne. Donc je,
moi j'ai entendu dire à propos de Marcel Aimé, un grand éditeur dont je tairai le nom, c'est un grand écrivain, mais c'est un fasciste. Mais non.
Non.
Bah, c'est pas vrai.
Alors après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Gripari a été édité quasiment toute sa vie aux éditions L'Âge d'Homme, qui était une petite maison d'édition, qui n'avait peut-être pas la force de frappe aussi de Gallimard ou Marcel Aimé. Gripari n'est pas en Pléiade. Alors peut-être qu'il est moins connu aussi par rapport à ça, mais je ne sais pas s'il y a un effet vraiment, vraiment répulsif, très honnêtement.
Je ne sais. Écoutez, de toute façon, la meilleure chose, c'est aller... Je crois qu'il en a 4 en folio aussi... Socrate, Marie Gripota,
oui,
Phosphornologue.
Tout à fait, ils sont à la table ronde. Alors en folio, ils ont été édités en folio dans les années 80. Je ne sais pas s'ils sont toujours au catalogue, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ces livres-là, tout ce qui a été édité chez la table ronde dans les années 60, donc entre 63 et 68, est toujours aux éditions de la table ronde. C'est toujours publié.
On va revenir un petit peu encore sur Patrouille du Comte, parce que ça, vraiment. C'est une merveille. Mais en attendant, on va écouter un message. Oh, je dis que des bêtises aujourd'hui. Un message.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh ben voilà, merci d'avance. Alors, le thème de Patrouille du Comte, ce qui arrive... Il écrit ça, il a dû l'écrire ou le publier en 82.
Exactement, tout à fait.
Et les socialos sont au pouvoir depuis un an. C'est pas encore le politiquement correct d'aujourd'hui, mais on sent, il l'a vu venir.
C'est ça. Alors c'est l'histoire d'enfants qui sont convoqués pour aller par le ministère, par le gouvernement en tout cas du livre qui est décrit dans le livre, pour aller polisser les comptes, les rendre beaucoup plus, on va dire, politiquement corrects. Donc je peux citer quelques exemples. La mère Michel qui a perdu son chat, qui est, je crois, dans le vrai conte, malheureusement dévoré. Ici, il est récupéré par la mère Michel, tout se finit bien. On a le petit Pousset aussi, dont les frères sont normalement... de l'ogre, pardon, qui dévore normalement les enfants. Bon, il faut relire le petit Pousset. Là, ici, ils ne sont pas du tout dévorés, enfin, etc., etc. Mais le problème, c'est que comme tous les contes ont changé, ça pose un problème d'un point de vue... temporelle, si vous voulez. Donc ça va créer le bazar dans le monde des contes, et puis finalement ça va se finir par une guerre civile. Enfin, le livre ne se termine pas comme ça, mais ça se finit par une guerre civile qui aboutit sur autre chose. Donc c'est aussi un avertissement, je pense, de
je crois bien que le petit Poucet se transforme en Robespierre ou en Khmer Rouge, qui arrive au même.
Un salaud, on peut le dire.
Mais vous savez qu'au départ, il avait présenté dans une maison d'édition, on ne va pas dire laquelle. Histoire du prince Pipo. Et d'abord, la directrice littéraire lui dit « Bon, ben, je vais vous envoyer votre contrat, il ne le reçoit pas. » Et puis alors, elle l'appelle et dit « Je vous invite à dîner. » Bon, il se doutait bien que, vu qu'il disait à tout le monde qu'il était homosexuel, il savait bien que ce n'était pas pour la draguer. Et là, il y a une sorte de gourou démocrate qui dit « Monsieur, j'ai lu votre manuscrit. Vous savez écrire, effectivement, mais attendez, on est en République. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de « Il était une fois un roi, une reine. »
Oui, c'est très traditionnel.
Il l'a porté chez Grasset Jeunesse. On lui a pris tout de suite. Et puis après, il a eu de très bons rapports avec Grasset Jeunesse.
C'est ça.
Je crois même que le directeur Fasquelle, un jour, pour un de ses bouquins, lui a envoyé une lettre en disant « Quelle joie d'avoir publié un livre d'une telle qualité !» Enfin, mais là encore, il n'y a pas que les contes pour enfants. Alors, évidemment, hein, je sais qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins de livres, mais on peut encore en trouver d'occasions sur les petites machines infernales. Là.
Alors, à titre personnel, donc nous, à l'association des Amis Pierre Gripari, nous avons l'intégralité de son œuvre que l'on met à disposition à la vente hein, pour une somme modique, et dont, bien évidemment, tous les bénéfices servent à faire vivre l'association. Donc les gens, s'ils veulent un titre de Pierre Gripari, peuvent tout à fait m'écrire. Alors, je dis des bêtises. On avait l'œuvre intégrale, j'en ai quand même vendu depuis, mais en tout cas, s'il y a un titre particulier que les gens cherchent et veulent trouver parce qu'ils n'arrivent pas à le trouver dans le commerce ou sur Internet, ils peuvent tout à fait nous joindre à l'association en passant par notre page Facebook ou par notre page Instagram ou en m'envoyant un courriel, tout simplement.
Voilà. Le courriel, c'est Amis Gripari, quelque chose.
Alors, on l'a changé il n'y a pas longtemps. Je suis désolé, je ne l'ai pas apporté. Je l'ai changé parce que l'adresse...
Mais c'est avec les moteurs de recherche, on met Amis Gripari, on finit par trouver.
Oui, ou en passant par notre page Facebook. Voilà, il n'y a aucun problème.
Deux, trois petites choses encore à vous dire. D'abord, dans le reportage sur Arte, il y a une image de synthèse d'intelligence artificielle où on le voit qui ouvre des fenêtres. Et c'est de l'intelligence artificielle.
Ah bon, moi, je pensais que c'était vraiment un reportage d'époque. Ils avaient fait
Non, il ne se mettait pas à la fenêtre comme ça. Hein.
Puis, d'accord.
Puis d'abord, il habitait souvent sur des cours.
Oui, dans des endroits assez lugubres.
Non, je crois que c'est de l'intelligence artificielle. Même Anne-Martin Conrad pourrait nous passer un message pour nous dire si c'est oui ou non de l'intelligence artificielle. Je crois bien. Hein. Alors, les adresses de Gripari, il habite pas loin de la rue Broca, il écrit les contes de la rue Broca. Alors, il y avait un bistrot où il discutait avec le patron et les gosses, il racontait des blagues aux gosses du patron qui était un bistrot kabyle. Et puis, ça n'est plus un bistrot, c'est fermé. Mais il y a eu une époque où c'était devenu un petit resto où il y avait un placard au balai, on disait, faut pas rentrer parce que vous allez déranger la sorcière. Alors, il habitait aussi 48 rue de la Folie Méricourt, il a fait les contes de la Folie Méricourt, et je crois que rue Broca, il y a une fresque des contes.
Alors, effectivement, il y a une fresque qui, lui, habitait au 11 boulevard de Port-Royal, dans un hôtel meublé qui s'appelait Le
Plaisir. Non, il s'appelait au 13, il habitait au 13.
Excusez-moi.
Parce que moi, j'habitais au 9.
Oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi 11,
et
il habitait
11,
au 13.
Il y a le cinéma, il y a toujours le cinéma,
l'Escurial, c'est ça, ouais. Absolument, où il allait d'ailleurs. Alors, il habitait au 13, et donc il habitait dans un petit hôtel meublé qui s'appelait le Plaisant Logis, qui n'avait de plaisant que le nom. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'hôtel Marcel Aimé, etc. Si on faisait aussi un hôtel Pierre Gripari, je pense qu'on serait, à mon avis, très mal loti, puisque Pierre Gripari a toujours vécu dans des petites chambres, des turnes, en fait, très, très inconfortables, avec les toilettes et la douche sur le palier. Et dans son dernier studio, donc au 48 de la Folie, rue de la Folie Méricourt, il y avait une cuisine, ce qui était quand même un grand luxe pour lui. Alors, effectivement, on peut trouver des fresques qui reprennent les contes de la rue Broca. Et nous avions déposé, c'est resté lettre morte malheureusement, et j'ai pourtant insisté, j'ai passé beaucoup de temps, je n'ai jamais eu de réponse, alors que le dossier était bien parti, pour apposer une plaque au 69 de la rue Broca où se trouvaient l'épicerie de Papa Saïd, où, qui est quand même le centre, l'épicentre des contes de la rue Broca. Et malheureusement, tout a été stoppé. Je n'ai jamais eu de réponse. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est dommage.
Vous n'avez jamais compris pourquoi?
Non, je me doute un petit peu, mais voilà.
Et là, c'est ça ne va pas s'arranger, à mon
avis.
Non,
là, c'est reparti, je pense. C'est reparti.
Bon, on est comme ça, en tout cas. Écoutez, vraiment, alors, donc, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle, à part encore quelques bouquins à la table ronde, les contes pour enfants, alors là, on a tout ce qu'on veut.
Les pièces de théâtre pour enfants aussi, parce que Pierre Gripari a aussi écrit beaucoup de théâtre, dont du théâtre pour enfants. Je pense par exemple à l'inspecteur Toutou, qui a été joué au théâtre du Lucernaire il y a 3 ans à peu près, qu'on avait été voir. Il y a évidemment tous les contes, l'histoire du prince Pipo et un autre roman qui a été publié, un roman pour enfants qui a été publié après sa mort, qui s'appelle Jean-Yves à qui rien n'arrive.
Il y a aussi Texas Jim.
Texas Jim, absolument.
Alors, Texas Jim et Inspecteur Toutou, c'est illustré par Philippe Dumas.
Tout à fait.
Et les autres contes pour enfants étaient plutôt illustrés par...
Par Claude Lapointe, qui Claude malheureusement, Lapointe. Je l'ai appris parce que quand la journaliste d'Arte m'a appelé pour faire ce reportage sur Pierre Gripari, elle a appelé Claude Lapointe également et elle m'a appris qu'il était décédé. Voilà, donc on lui a rendu un petit hommage sur notre page Facebook. Il est décédé l'année dernière. Pareil, il avait connu Gripari, c'était lui qui avait illustré ses contes. Et d'ailleurs, Pierre Gripari était très très content du travail de Claude Lapointe.
Et de Philippe Dumas aussi.
Oui, bien sûr.
Et alors, je vais vous raconter la meilleure, c'est qu'ils ont fait ensemble un voyage. Enfin, c'était prévu par... ils étaient invités dans l'île de la Réunion pour parler des contes pour enfants. Et quand Philippe Dumas raconte les aventures avec Pierre Gripari... c'est exceptionnel, c'est quelqu'un qui vous reste dans la mémoire et tout. Écoutez, nous sommes sur Radio Courtoisie, nous venons de parler de Pierre Gripari. Alors fouiller, je sais bien que maintenant on fouille plus avec des pioches ou des manches de pioche, ce que je sais, on fouille avec des ordinateurs, des machins comme ça. Puis on peut faire les bacs aussi, les bacs de livres, les libraires. Il y a toujours des libraires d'occasion, hein, et ça fait quand même plaisir, malgré tout, tant que ça reste. Et donc, lisez Pierre Gripari, lisez Marcel Aimé, et évidemment, lisez aussi Alexandre Vialat. Bonjour, 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 notre ami Bernard Janin.
Pour faire transition, il n'était peut-être pas si éloigné que ça. Quant à leur domicile, parce que rue Broca et rue Léon Maurice Norman.
Oui, alors on va parler justement de toutes les adresses. Mais d'abord, vous êtes vraiment une association. Alors, vous n'en êtes pas le président, mais le président n'est pas là. Il est
à Clermont-Ferrand
pour un colloque, je crois,
pour
sur
un colloque,
Vialat.
Oui.
Ça c'est du militant. Hein.
À propos de la réédition, enfin édition plutôt, d'une correspondance, une grosse correspondance entre Alexandre Vialat et Ferny Besson.
Chez qui?
Qui était son ami, un éditeur...
C'est pas en dilettante, non? On va voir ça tout de suite.
Oui.
Est-ce qu'il y a pas... Si, il y a un hôtel Marcel Aimé, il n'y a pas d'hôtel Pierre Gripari, mais heureusement, à Clermont-Ferrand, il y a un hôtel Vialat. Alors... Ces cahiers Alexandre Vialat animés depuis 1974, excusez-moi, et qui ont 51 numéros, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu de numéro en 2000, semble-t-il.
Peut-être.
Ils avaient peur de la
COVID,
du bug informatique. Ouais.
Ah, en 2000. Je ne sais pas, oui, peut-être.
Oui, ouais, bon. Donc, mais ça fait quand même 51 ans d'existence pour l'association Vialat. Qui a été créé à l'initiative de
Ferny Besson, qui était une amie d'Alexandre Vialat, et qui a concouru à beaucoup de choses qui sont au bénéfice de sa mémoire et de son œuvre, puisqu'elle a été la première à faire publier les chroniques de Vialat chez Julliard, je dirais des rassemblements de chroniques, puisqu'il y a... pas autant de volume que de chroniques, mais il y a une quinzaine, vingtaine de volumes de chroniques. Et donc, elle a créé ça après la disparition d'Alexandre Vialat en 1971. Et
C'est pratiquement le seul écrivain
qui est
plus connu après sa mort qu'avant.
Oui, comme disait Pierre Jourde, il est comme le duc de Guise. Plus grand mort que vivant. Je suis un peu perdu là dans mes papiers.
On va s'y mettre. Alors d'abord, vous, même question, même réponse, enfin autre réponse, oui. Bien sûr. Le premier Vialat que vous ayez lu.
Eh bien, figurez-vous que c'est dans le journal La Montagne.
Directement dans le journal.
Oui. Ces chroniques hebdomadaires qui arrivaient le mardi, pendant les longues vacances d'été d'enfants et d'adolescents que j'ai été, il y avait un abonnement, ma grand-mère prenait un abonnement pour l'été.
Elle le prenait pour Vialat ou on le prenait pour
le journal, pour la journal. Montagne, etc. Ça remplaçait le Parisien... auquel elle n'était pas abonnée, mais qu'elle lisait tous les jours. Mais pour les vacances,
on aurait pu dire, avec Vialat, mon Dieu, que la montagne est belle.
Oui, oui, oui. Ensuite, il y a eu une interruption de lecture, puis un peu de roman, quand même. Et jusqu'à la découverte, vraiment, du foncier de Vialat dans les fruits du Congo.
Alors, évidemment, maintenant, je crois que les chroniques de Vialat, on les trouve en bouquin.
Oui, 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 aussi, un certain nombre.
Un certain nombre, il y a plusieurs bouquins, enfin, ça s'appelle la collection bouquins.
Oui, la collection bouquins, donc, oui, préfacée par Pierre
Jourde. Et on en trouve beaucoup, quand même, chez cet éditeur que nous aimons tous, le dilettante Dominique Gauthier, avec son nouvel assistant... Antonin Beer et tous sont des passionnés de Vialat, ils ont toujours été fidèles à Vialat.
Beaucoup d'apocryphes ont été publiés par le dilettante. Et des titres courts, parce qu'il faisait court. Et il a toujours eu du mal à faire long, Vialat. Il disait le début m'intéresse, la fin aussi, le milieu m'ennuie.
Bah, ces romans sont pas très longs, on peut pas dire qu'ils soient dans...
Ils sont plutôt courts, sauf Les Fruits du Congo, qui était en lice jusqu'au dernier tour pour le Goncourt, avec Julien Gracq, mais Mektoub, il n'a pas eu le Goncourt, et à la fois, Gracq a refusé le prix. Donc, il était écrit qu'il ne l'aurait pas.
En tout cas, moi, j'ai un dictionnaire des auteurs du XXe siècle. C'est Jourde qui a fait le texte, qui est très long, très bien. D'ailleurs. Oui. Bon, il arrive presque à faire aussi long que Marguerite du Rasoir, mais il n'y est pas parvenu. Alors, justement, on est bien embêtés, parce que si je vous dis... Qu'est-ce qu'il faut lire en premier? Vous allez dire, il faut prendre un bouquin de la collection.
Il faut prendre les recueils de chroniques.
Voilà.
Parce que ça a cet avantage, ce sont des textes courts qui suivent l'actualité de leur temps, mais qui vont au-delà et qui se bouquinent, si on peut dire. On n'est pas obligé de s'investir comme dans un roman, ce qui n'empêche pas de lire les romans, surtout ceux de Vialat, qui sont pas longs, sauf Les Fruits du Congo. Les livres de chroniques se bouquinent, quoi. C'est-à-dire on peut en lire 3-4 le soir avant de dormir et puis autant le lendemain, etc. Et là, quasiment tout est publié. Et en partie grâce à l'association et au cahier et au merveilleux travail dans un premier temps de Ferny Besson et ensuite jusqu'à aujourd'hui. Pas aujourd'hui même, puisqu'il ne peut pas être là, je suis à sa place, effectué par Jérôme Trollet, qui s'investit corps et âme, je dirais même plus que ça, dans la composition et la distribution et la publication de ses cahiers.
Alors, je vais vous dire, d'abord, vous avez sans doute connu le fils Vialat, Pierre Vialat.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr.
Il est même venu boire un verre chez moi, je suis allé chez lui en boire un autre. Ouais. Il avait d'ailleurs un appartement bizarre, vous vous souvenez?
Ouais, ça montait,
ça redescendait, bon bref, peu importe. Et Pierre Vialat m'a quand même dit une chose, nous devons la reconnaissance à la fois en un mot et en deux mots de Vialat, grâce à trois personnes, Ferny Besson, évidemment. Alors... Bernard de Fallois, parce qu'à l'époque, c'est lui qui dirigeait Julliard, et Jean Dutour, qui s'est battu pour son ami, qui a fait des chroniques et tout. Voilà, et on rend aussi hommage à ces trois personnes. Ferny Besson nous a quittés, je pense.
Oui.
Et donc, on rend hommage à ces trois personnes qui se sont battues. Et vous-même, et nous-mêmes, quand nous sommes écrivains, nous sommes auteurs, on se bat aussi pour les autres, parce que qu'est-ce que nous serions sans ceux qui sont venus avant nous ? Nous aidons peut-être, par notre passage de témoin, à ceux qui seront écrivains demain, après. Alors, je crois que c'est marqué dans le dernier numéro 51, je crois que la correspondance, ça va être publié aux dilettantes. Hein.
Oui.
Alors, on va citer quelques-uns de leurs des titres. Salomé, l'oiseau du mois, au coin du désert, etc. Enfin, allez aussi à la librairie du dilettante, qui est place de l'Odéon. Oui. Dites, voilà, je veux lire du Vialat. Et vous verrez d'abord des passionnés de littérature, des passionnés de Vialat, des passionnés d'autres écrivains. Hein. Il n'y a pas que Vialat.
Alors, ces éditions posthumes, notamment au dilettante, doivent beaucoup à Pierre Vialat, son fils.
Oui, oui.
Et à Ferny Besson. Et à Jérôme Trollet.
Mais...
Il faut le dire.
Oui, mais...
Parce que vraiment, la somme des cahiers, il y en a 51, c'est relativement exceptionnel qu'un cahier d'amis ait publié autant de textes inconnus ou inédits, ou
alors, justement,
d'un auteur.
À chaque fois, il y a un thème... Parce que c'est formidable, les cahiers Alexandre Vialat. Je dis pas ça pour vous complexer, hein, messieurs qui vous occupez de Marcel Aimé et Gris-Paris, mais il y a une petite revue annuelle, mais qui est comme un livre. Hein, et tous les trois mois, on reçoit aussi un petit bulletin qu'on peut se faire envoyer d'ailleurs par Internet, qui est un bulletin trimestriel. Bonne et heureuse nouvelle année, voilà, c'est notre ami Trollet. Et alors à chaque fois, on donne des nouvelles des gens qui font connaître Vialat. Alors par exemple, dans l'association des amis d'Alexandre Vialat, bon, le président est François Vialat, alors ce serait le petit-fils alors?
Non, c'est un cousin.
Cousin. Alors, parmi les membres, il y a Marianne Silberfeld. Est-ce que c'est pas la fille de Silberfeld qui signait Michel Chrétien, donc qui était un camarade de résistance de...
Je ne sais pas.
Hein, Hervé Guémard,
oui, bien sûr.
Charles Danzig, Philippe Meyer, grand amateur de Paris aussi, François Taillandier. Et puis, bien sûr, le président Jérôme Trollet. Pierre Jourde, excellent écrivain. Hein.
Oui. Qui vient de sortir.
C'est ça qui est formidable dans le bulletin des.
Un livre assez extraordinaire.
Non, mais vous êtes formidable parce que.
Il s'appelle La Marchande d'Oubli.
La Marchande d'Oubli, oui.
Chez Gallimard.
Voilà. Et alors, ça s'appelle Les livres de nos amis. Alors, il y a le livre de Pierre Jourde. Il y a présenté par Jourde un bouquin sur d'Alphonse Allais, Loufoque. Il y a Les Jardins parisiens de Patrick Clou. Michel Bernard, qui doit être des vôtres aussi, publiera l'automne d'André Derain aux Belles Lettres. Alfred Gilder va publier Bagdad Ballade. Hervé Guémard, qui travaille un dictionnaire amoureux de Malraux, dans lequel figurera un article où il évoque Vialat. Mmh. Malraux écrira un éloge de Battling le Ténébreux. Voilà, ça veut dire que quand même, vous savez, les admirations ne viennent pas. Paul Fournel, Marie-Hélène Lafont... on cite aussi un livre dans la collection aux éditions Héliopole, « Je suis auvergnat, mais je me soigne » de Joseph Vébray, qui est, voilà,
c'est ça. Il y a un pocard dans cette collection.
Oui, il y a un pocard, mais on n'est pas là pour parler de moi. Il y a les associations amies, alors Jean-Pierre Belleville, évidemment, est cité, vous voyez, il publie le répertoire 2026, les amis d'Henri Poura, l'association André Beauclair, les amis de Pierre Benoît, les amis de Mac Jacob, les amis de Jean Proal. Ah, pour être franche, là, j'ai jamais lu une ligne. Les amis de Pierre Gripari et les amis d'Alphonse Allais. C'est-à-dire, on pense aux autres. Et c'est ça qui est fort aux associations, à l'association Via Latte. Et particulièrement, il faut saluer Jérôme Trollet, c'est de penser aux autres.
Il pense même au projet annexe au cahier. Par exemple, la publication de la biographie d'Alexandre Via Latte. Il n'y en a pas eu depuis le livre de Ferny Besson, La complainte d'un enfant frivole, qui remonte à 81. Et là, donc, une nouvelle biographie constituée par Pierre d'Almeida et Sylviane Coyot. Ils sont tous les deux professeurs de français émérite. Il reste à trouver un éditeur pour ce travail considérable. Je crois que Taillandier est en cours. A été contacté.
Taillandier est écrivain, mais il a quand même des connaissances.
Taillandier, les éditions Taillandier.
Ah, les éditions Taillandier. Oui, oui. Mais François Taillandier.
Oui, bien sûr.
Qui est auvergnat aussi, qui a même fait un livre sur Clermont-Ferrand aussi.
Clermont.
Et que j'ai déjà reçu dans cette émission.
On n'a pas tout à fait le même accent dans le Cantal. Dans le Nord-Cantal, du moins.
Ah, excusez-moi, moi je suis plutôt du Limousin.
Oui.
Malheureusement, corrézien. Non, je pense à un président de la République.
Ça se soigne. Comme
voilà. Bon, alors, oui, c'est vrai, on est corrézien, mais on soigne. Alors, autre chose aussi qui est très, très important, on a vu que Marcel Aimé a été énormément adapté au cinéma. Gripari n'a jamais été, sauf en dessin animé. Hein.
Oui, absolument. Les contes de la rue Broca ont été adaptés à la fin des années 90 et sont passés sur FR3 à l'époque. Et pour la petite anecdote, moi je me souviens qu'à Mexico, on avait au tout début des années 2000... À Mexico, sur la télé nationale. Je vivais au Mexique à l'époque.
Ah bon, voilà. Non,
oui, parce que j'ai pas
je
le...
Dis, il va directement au Mexique pour voir des...
Non, je vous dis ça parce que j'habitais Mexico à l'époque où j'ai passé une grande partie de mon existence, et nous avions sur la télé nationale en l'an 2000, on avait les contes de la rue Broca, les mêmes qu'en France, hein, ceux qui passaient sur France 3, évidemment en langue espagnole, tout à fait.
On oublie tout, est-ce que c'est vrai que les filles de Mexico sont les plus belles, je sais pas, selon la chanson, non, on parle d'autre chose.
On oublie tout
sous le soleil de Mexico. Alors il y avait la fameuse blague aussi, on disait, est-ce que tu connais, t'as déjà rencontré un Mexicain? Non, mais j'ai rencontré un Mexicain. c'était des blagues. On est en France, qu'est-ce que vous voulez? On est en France. Alors,
il prouve qu'on a
est-ce qu'il y a eu des adaptations de Via Latte au cinéma?
Non. Non, il n'y en a pas.
Combien de romans il a fait?
De son vivant, sont parus trois romans. Batling le Ténébreux, dans l'ordre, Le Fidèle Berger, pendant la guerre, et Les Fruits du Congo. Alors, il en avait beaucoup en chantier, il écrivait beaucoup. Il ne faut pas oublier que c'est le traducteur en Occident, le premier traducteur de Kafka. Donc, il travaillait beaucoup. Sa correspondance, des chroniques quand il a été recruté par La Montagne, par André Des Thomas, pour avoir une chronique hebdomadaire. Les romans entrepris, les nouvelles... Alors, il y a un recueil de nouvelles qui sont remarquables, qui s'appelle Badons et les créatures. Il y a une nouvelle qui fait une vingtaine de pages, dont j'ai eu, à une époque, l'envie de faire un film et commencer l'écriture d'un scénario, mais bon, ça n'a pas abouti.
Il n'y a pas eu des options de la part de producteurs qui prennent une option puis qui se déballonnent ou...
Je ne sais pas si Pascal Thomas n'avait pas pris une option sur quelque chose.
Ah, mais c'est l'esprit.
Oui, parce que nous étions en concurrence pour la réalisation du Cercle d'écrivains.
Ah, du Cercle d'écrivains, oui.
Oui. Et il aime beaucoup Via Latte, il s'y intéressait beaucoup, et peut-être. Mais non, il n'y a pas d'adaptation.
Mais vous savez, dans les films, il y a une phrase de parmi toutes ces phrases géniales, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est après un déjeuner d'anniversaire ou de mariage, les hommes défont leurs pantalons parce que ils ont tellement bu et mangé et bouffé d'ailleurs. Et Vialat a cette phrase extraordinaire. Après ce genre de repas, l'homme se sent moins seul. Or, c'est l'esprit des films de Pascal Thomas. On est à la campagne. On mange,
oui,
on boit, on fait même autre chose. Enfin, c'est...
Il y a le collège, enfin, le collège classique dans le monde de Vialat. Le collège avec les chambrées, etc. Il avait été au collège Adol aussi, Adol, je crois.
Oui. C'est-à-dire
ils avaient fait monter une vache dans le dortoir, etc. Enfin, on peut voir tout ça dans Le Siècle d'écrivain, s'il est rediffusé un de ces jours.
On doit pouvoir le trouver sur Internet.
Il y avait eu un autre document audiovisuel, ce portrait biographique et littéraire de Vialat dans cette série que j'ai fait. Mais il y avait aussi eu un premier essai d'un long reportage qui est très difficile à voir maintenant. Qui a été fait par Ferny Besson et Denis Vetterwald, un comédien qui avait un spectacle.
Qui a fait des spectacles, cochon.
Qui a fait une longue carrière avec des textes de Vialat, joués d'une manière très.
Il n'a pas fait un texte
épurée,
sur le cochon, non. C'était peut-être pas Vialat aussi.
L'homme n'est que pour les spectacles de. Enfin, le spectacle le plus connu de. De Denis Vetterwald, le titre était L'homme n'est que poussière, d'où l'importance du plumeau.
Oh, magnifique, magnifique. Alors.
Ce qu'on peut dire aussi à propos de Vialat, puisque évidemment le retourne, c'est qu'il le disait de son vivant je suis notoirement méconnu. Et effectivement, alors que des gens comme Nimier lui avaient dit vous êtes sauvé. Avec ce qu'il avait fait, déjà, il était sauvé. Mais le grand public, c'est autre chose. Et il a été pris beaucoup pour un fantaisiste ou un rigolo littéraire, alors que c'est tout l'inverse. Moi, j'avais mis un sous-titre au portrait d'écrivain que j'ai fait sur lui. J'avais mis un sous-titre qui était « Alexandre Vialat, la politesse du désespoir ».
C'est un très beau sous-titre, mais je vais vous dire une chose, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, Kafka, on peut pas dire que ce soit rigolo, et pourtant la métamorphose est une nouvelle comique.
Bien sûr, d'ailleurs.
Mais le comique est le frère de l'horreur, disait Gripari, cousin germain.
Le Vialat était très attaché à cette facette de Kafka dans ses traductions.
Est-ce que, alors moi on m'a raconté qu'il apportait lui-même son texte à la
gare d'Austerlitz.
À la gare d'Austerlitz, il le remettait à quelqu'un.
Au wagon postal, il remettait la chronique au chef de train, parce qu'évidemment il l'est terminé au dernier moment.
Alors vous avez la chance qu'a également Marcel Aimé, mais enfin vous... Vialat, les amis de Vialat, et non pas nos amis de Gripari, vous avez une plaque sur...
Oui, alors c'est un des projets de l'association de faire nettoyer, restaurer la plaque rue Léon-Maurice Normal, où Vialat a habité.
Alors il y a aussi...
sa vie à Paris.
Oui, rue Léon-Maurice Nordman. Voilà, je l'ai vu, la plaque.
Côté de la santé.
Mais il faudrait la... Écoutez, faites-le vous-même.
Oui, on pourrait, oui. C'est plus facile d'être vialatiste que d'être vialatien, donc oui, on pourrait faire ça.
Non, il y a aussi un prix Alexandre Vialat. Est-ce que l'association est partie prenante, ou est-ce que c'est...
Oui. Grâce, d'ailleurs, au journal La Montagne.
Mm-hmm.
Le prix qui s'était éteint à un moment, il était donné à la mairie du 13e, où il y avait monsieur, qui était ancien ministre de la justice, tenait beaucoup. Et puis il y a eu une interruption pendant un certain nombre d'années. Ça a été repris grâce au journal La Montagne. Et donc, un prix est donné chaque année.
C'est Jérôme Leroy qui l'a eu cette année. Et je crois que c'est très intéressant.
Jérôme Leroy,
c'est...
pour un effondrement parfait à table ronde.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que on donne de l'argent. Ça, je trouve qu'un prix sans donner d'argent, c'est vraiment se fiche de la,
ouais, ouais, ouais.
la gueule du monde.
Alors, bon. Le montant du prix Vialat, qui est de...
C'est des sommes qui s'additionnent.
6 000 et quelques euros.
C'est la longueur du Congo, je
crois. La longueur du fleuve Congo plus la hauteur du Puy-de-Dôme.
Voilà.
Mais la hauteur du Puy-de-Dôme est contestable. C'est un cantalien qui vous le dit. On a plus haut.
Et Vialat, amateur de Cantal ?
Oui, bien sûr.
Il a raison.
Oui.
Est-ce qu'il y a un prix Marcel Aimé ?
Oui, bien sûr, depuis longtemps déjà.
Oui.
En fait, c'était au départ un prix décerné à Besançon. C'est un ancien prix qui a été éclaté en deux, est devenu d'un côté un prix littéraire Marcel Aimé, et de l'autre côté un prix pour un historien, Lucien Febvre.
Oui.
Et donc il y a deux membres de la Société des Amis de Marcel Aimé qui font partie du jury. J'ai moi-même fait partie de ce jury pendant plusieurs années.
Voilà. Hein? Si j'avais su, je vous aurais fait la cour. Alors, cher Jean-Pierre Belleville, redites-nous votre site pour les gens qui seraient vraiment intéressés par le répertoire de Marcel Aimé. Redites le nom de votre site.
Donc c'est jpbelleville194@bbox.fr.
Vialat.
Alors Vialat, qu'est-ce que je peux dire en plus de l'adresse? Les cahiers donc paraissent tous les ans, une fois par an depuis cinquantaine d'années, pas loin. Et tout ça pour la modique somme de 25 euros. Vous êtes membre de l'association et vous recevez le cahier, qui est 120 pages de choses intéressantes.
Et pour Gripari, il faut donner combien?
Alors pour Gripari, c'est un peu moins cher, c'est 20 euros.
Oh, ils vous battent.
Ah oui, mais les cahiers font 120 pages.
Non, mais bon, mais de toute façon,
oui, alors, l'adresse,
quand on aime, on ne compte pas.
Oui, hein. Que je vous donne l'adresse, bien sûr. L'adresse des amis. Hein. C'est, alors, il y a une adresse email qui est jérôme.trollet, T-R-O-2-L-E-T, tortillon, gmail.com.
Voilà.
Jérôme.trollet, tortillon, gmail.com.
Très rapidement, messieurs, parce qu'on
et
est à 5 minutes de la fin.
C'est au 11 rue d'Assas,
75-006. C'est à l'angle de la rue de Rennes, d'ailleurs.
La rue de Rennes, pas loin.
Mais on connaît. Bon, messieurs, très rapidement. Honnêtement, on va commencer par Marcel Aimé, Gripari et terminer par Vialat. Est-ce que vous pensez que le travail des associations, des individus qui se battent pour leurs écrivains, est-ce que vous croyez que ça fait beaucoup de bien, un peu de bien, ou finalement on est déçu aussi par notre époque, Marcel Aimé?
Je pense qu'elles sont nécessaires, mais effectivement, il faudrait que ces associations... fasse par exemple des tournées de conférences, ce serait une idée ça, dans les médiathèques. Il faut aller au-devant du public, parce que attirer le public, c'est très difficile.
Oui, je rejoins tout à fait monsieur, et puis il faut savoir qu'on est quand même dans une société où on lit de moins en moins, voire quasiment plus. J'ai été professeur avant, donc c'est ce que j'ai pu observer. Donc effectivement, ces associations sont essentielles, et notamment pour, alors je vais défendre un petit peu ma paroisse, mais pour Gripari, c'est fondamental, puisque en dehors, malheureusement, des comptes, pas grand monde ne le connaît.
Et vous savez, la précédente association des Amis de Gripari, moi j'avais tenu à ce qu'il y ait un comité d'honneur. Quand on voit la liste des gens du comité d'honneur, c'est exceptionnel comme excellents écrivains en plus. Hein.
Tout à fait.
Bon, et là, d'abord, la quasi-totalité est morte, je crois.
Ils sont tous morts malheureusement.
Il n'y a plus que moi.
Oui, c'est vrai. Le dernier était Benoît Dutertre, qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois.
Ouais.
Et puis, il reste vous, bien évidemment. Donc.
Oui, et puis Anne-Martin Conrad, bien entendu, elle n'était pas dans le comité d'honneur.
Elle n'était pas dans le comité d'honneur, mais elle a été quand même une grande figure de l'association.
Et à quand le club des Ronchons?
Ah, le club des ronchons, oui. Bah, vous savez, on ne peut plus ronchonner. Enfin, ouais. Parlez-nous plutôt. Alors, Violette, ben, est-ce que vraiment j'ai l'impression, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'écrivain qui est plus connu après sa mort qu'avant sa mort.
Oui, oui, oui.
Largement. Hein.
Oui, 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 oui. Il se disait notoirement méconnu de son temps. Mais oui, l'association, c'est très, très important parce que ça veut faire... Il y a une bouche à oreille. Mais il faut amener les gens et les jeunes, surtout, à la lecture. Et Alexandre Vialat, c'est une écriture pour les jeunes. Pour les jeunes, parce que c'est plein d'esprit, de poésie, de dextérité dans la langue. Mais si, évidemment, on n'apprend plus à écrire et à lire aux enfants à l'école, ils vont encore moins lire des écrits sur des écrivains. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on leur apprenne à lire et à écrire. Et après,
on verra.
Alors, bons ouvrages.
Je remercie beaucoup Marcel Aimé, c'est grâce à Marcel Aimé que j'ai rencontré Jean-Pierre Belleville. Je remercie beaucoup Pierre Gripari, parce que c'est grâce à Pierre Gripari que j'ai rencontré Raphaël Pajares. Et je remercie beaucoup Vialat. On s'est peut-être connu indépendamment de Vialat, d'ailleurs, je me demande.
Oui.
Mais ça fait rien, je vous remercie quand même, cher Bernard Jeannin.
On s'est connu, vous chantiez du rock'n'roll.
J'ai fait ça, moi, dans ma jeunesse.
Moi aussi.
Bon, en tout cas, ma prochaine émission sera le samedi à 18h, le samedi 25 avril, le lendemain de la commémoration du génocide arménien, d'ailleurs. Je m'en présente. Voilà, ça aussi, c'est... Enfin, je m'occupe pas de politique, mais quand même, il y a quand même des saligots dans la part. Voilà. Au 25 avril, et devinez de qui on parlera? Pour moi, un des plus grands artistes français du XXe siècle.
Charles Aznavour? Non.
Ça pourrait. Ah. Non, mais ça, c'est Sacha Guitry.
Ah,
il savait tout faire. Il savait tout faire.
André Bernard.
Ben oui, André Bernard. Vous avez connu André Bernard aussi.
Oui.
Au 25 avril, donc. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir entendus.
Vous venez d'entendre le libre journal de la douceur de vivre dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 28 mars 2026 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn.